Écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Pour aider l'émission, vous pouvez prendre la carte d'auditeur à la librairie Publico, la librairie de la radio, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, ou prendre pour qu'on prélève sur votre compte un prélèvement. Sur le site de la radio ou à la librairie, là c'est 8 euros par mois et ça nous soutient bien pour faire des émissions libres et sans publicité. Ce mois-ci, nous recevons Hubert Haddad pour son roman « L'invention du diable » sorti en 2022 aux éditions Zulma et pour son livre de poésie « Portique de l'instant » sorti aux éditions Projectile en 2022. Bonjour Hubert Haddad.
Bonjour.
Je vous remercie d'être venu parler à l'antenne de Radio Libertaire de vos derniers livres. Vous êtes venu à de nombreuses reprises déjà ici. Comme d'habitude, je vous propose une émission en plusieurs temps. D'abord des questions biographiques et d'ordre général, puis nous passerons à chacun de vos livres. Est-ce que cela vous va comme programme ? Vous êtes né en Tunisie, à Tunis en 1947. La Tunisie est alors sous protectorat français. Vos parents émigrent à Paris en 1950. Je vous la pose toujours cette question-là, parce que pour moi elle est importante. Mm-hmm. Avez-vous des souvenirs de vos premières années tunisiennes ? Pourquoi vos parents sont venus en France ? Question de temps.
Il faudrait raconter toute la réalité géopolitique, historique, le colonialisme, l'effondrement du colonialisme, les guerres de libération, tous les biais à la fois géographiques et historiques pour pouvoir répondre vraiment à cette question. Il se trouve des gens qui sont mes parents, c'est des gens qui... Ma mère, elle est d'origine plutôt de souche algérienne, Constantine, et avec un père qui a fait la guerre 14, qui a été gazé, qui est mort, elle avait 10 ans, et à Verdun, il a fait toutes les guerres de ce conflit. Et un père qui est un vrai Tunisien, arabisant, et qui parle quand même un tout petit peu français, ma mère aussi. Mais si on voit les grands-parents, ils ne parlent qu'arabe, d'un côté comme de l'autre. C'est pas exactement le même arabe, mais ils ne parlent qu'arabe.
Ils n'étaient pas issus de la même région, vos parents?
Non, non. Je te dis, ma mère, c'est l'Algérie.
D'accord.
On est tous issus des guerres. C'est notre, si on remonte à une ou deux générations, trois générations, on s'apercevra qu'il y a eu des exils de toutes parts, des exils multiples, des emprisonnements, des déportations, et des flux migratoires permanents. Alors quand les guerres s'arrêteront, peut-être qu'on pourra parler sereinement d'identité, mais ça n'existe pas.
On a le temps, je crois.
Ça n'existe pas, l'identité. C'est un leurre. Il y a des humains sur la Terre. C'est l'évidence même.
C'est ce que disait différemment Paul Audy au mois de décembre à ce micro.
Oui, mais on est tous. Nous, les poètes, les philosophes, les écrivains, on se promène. On a des motifs.
On a un corps et il y a la planète. Voilà. Il n'y a pas de frontières.
Et sur cette planète, on voit d'autres poètes, d'autres écrivains, d'autres, avec lesquels on a une parole nue, immédiate, et on est dans l'altérité. Et l'altérité, c'est simplement d'être là sur Terre, dans le grand mystère d'être. Et au-delà de ça, il n'y a que des espèces de rétention, de résistance. On s'agrippe à des choses parfois très belles. Hein. Les appartenances, c'est beau. Albert Memmi parlait disait l'identité, non. Mais les appartenances, oui, les appartenances, c'est les langues, c'est les paysages, c'est les mémoires, c'est...
Mais pas les frontières, en tout cas.
Pas les frontières, non. Les frontières sont des artifices guerriers, des artifices toujours nés, venus des guerres, notamment après la fin des guerres coloniales, des guerres de décolonisation, des guerres de libération.
Pensez qu'en Afrique, ils ont tracé des frontières avec une règle droite.
Voilà, c'est ça.
Ça fait plutôt rire, comme on vient en rire.
Vous savez, quand on voit chez le boucher, parfois il y a un bœuf avec des horizontales, des diagonales, pour nous expliquer quel est le morceau. Eh bien, c'est ce qu'on fait, notamment en 1918, traité de Metz, traités pour se réapproprier l'Empire ottoman, qui s'est effondré en 19, et il s'est effondré, et là, il y a réappropriation des ressources. On laisse à la Turquie une bonne part, une part congrue. On oublie complètement, par exemple, on fait des pointillés sur la bête. Et on découvre, tout d'un coup, il y a des pays qui surgissent abstraitement, arbitrairement. Et les pays qui surgissent abstraitement, sans prise en compte de tous les éléments géographique, ethnique, entre guillemets, eh bien, ça va donner nécessairement, dans la volonté même des colonisateurs, des colons, quoi, des colons qui veulent garder quand même leur trésor, eh bien ça va donner des dictatures.
Et des conflits.
Et des conflits. Et il y a des peuples, notamment un peuple qui compte 40 millions d'habitants ou plus, c'est les Kurdes. Eux, ils ont décidé qu'ils n'auront pas de pays. Pourquoi? Alors que c'est un des peuples qui a une des plus grandes identités culturelles. Et non, on l'a exclu arbitrairement, et d'où tous les problèmes que nous avons, et d'où aussi, de manière positive, eh bien, ce peuple qui vit en permanence en quête de son, d'un État, d'un vrai État.
Un cheval sur 3 ou 4 pays.
Voilà, en 3 ou 4 pays, eh bien, il est celui qui résiste. Celui où les femmes, par exemple, sont des grandes résistantes, et dont notamment on a vu ça avec qui a fait la mis les pieds à genoux Daesh, c'est le peuple kurde, et on le remercie pas. On invente
en a parlé pendant une journée, et après on a pu reparler comme par hasard, quoi.
Et tout d'un coup il y a un attentat opportun à Istanbul, très opportun, où le soir même de l'attentat il y avait de grandes bannières tout le long de la rue, il y a eu l'attentat, et peu après il y a des bombardements et des massacres de nouveau de Kurdes. Et nous faisons semblant, nous mimons l'acquiescement à la parole médiatique. Mais il faut réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Nous sommes tous témoins et responsables des effets désastreux de ce qu'a pu être l'impérialisme colonial. Et là, c'est les retombées. Nous étonnons. C'était terrible ce qui a pu se produire pendant 2 siècles. Et on peut remonter évidemment à plus loin avec le premier impérialisme qui a détruit les peuples amérindiens. Mais on arrête là. Je ne crois pas que ce soit pour ce sujet que tu
invité. Quelles furent vos lectures de premières années ? Les premières années, hein.
Les premières années ?
Oui, après on fera l'adolescence.
Les premières années, on arrive à Paris, je me retrouve dans le Paris de la guerre d'Algérie. Et c'est triste, j'habite à Ménilmontant, c'est gris, c'est inquiétant.
Vous étiez un petit garçon libre dans les rues, je crois, si j'ai bonne mémoire.
Un poulpeau.
Comme on faisait à l'époque.
Ah oui, ben j'étais un poulpeau avec mon frère aîné qui... Michel, qui sera un peu mon mentor plus tard, parce qu'il avait 4 ans de plus que moi, puis il a pu... Il a apporté les livres, la culture. Il sera peintre.
On va en parler après, il y aura une question, parce qu'il y a un rapport avec le livre
avec
de poésie.
Livre, oui. Et Ménilmontant, donc Ménilmontant.
Mais maintenant, on n'est plus libre dans les rues, les enfants.
Ah non, les enfants,
ils n'ont pas une laisse, quoi.
Et alors bon, c'est tout un système. Foucault a tout raconté. Il a tout raconté avec une certaine justesse de ce qui a pu se produire. Et tout est lié. Enfin, à Paris, dans l'après-guerre, on n'allait pas enfermer les gosses. Les gens qui ont vécu cette guerre, ils ont connu les bombardements. Et c'était plus dangereux d'être dans chez soi que d'être dehors. Et donc les gosses étaient dehors, ils se mettaient en bande pour ne pas être ils jouaient sur les fortifs. Sur les fortifs, il y avait des camps de nomades, il y avait des on appelait les clochards, les SDF qui faisaient
les clochards, c'est leur vrai nom,
on appelait les clochards, je me souviens,
on appelait ça clochard, SDF c'est une invention,
voilà, SDF c'est venu après les clochards. Ben, ils participaient ils avaient c'était comme un petit peu comme les confréries au Moyen-Âge, les clochards ils avaient des moyens de survie. Il n'y avait pas seulement les poubelles, il y avait les puces.
Et des fois, c'était un choix.
Et nous, on nous disait, va pas trop sur les fortifs, là. Les fortifs, c'était la couronne autour de Paris, avant qu'il y ait le périph' tout autour de Paris. Enfin, il y avait des terrains vagues. Il y avait... parfois 1 kilomètre de terrain vague entre les banlieues et Paris. Et puis là, moi j'habitais du côté de Kremlin, après Ménilmontant, du côté de Kremlin-Bicêtre. Il y avait des résidus des fortifications de tiers qui pensaient comme en 14, On a fait la ligne Maginot. Lui, il pensait qu'il allait empêcher les Prussiens d'envahir Paris en construisant une grande muraille comme ça, médiévale. Il en reste quelques fragments.
Où ?
À Port d'Italie.
Je connais pas ça.
Entre Villejuif et Port d'Italie.
D'accord.
Il y a des fragments encore qui demeurent. On allait jouer là, on allait se balader.
C'était à Chadouin de Ménilmontant.
Oui, mais à Ménilmontant, à la fin, nous étions dans un taudis. Toute la famille, des enfants qui naissaient. J'ai eu deux jeunes frères à Paris. Et on ne pouvait pas vivre dans un studio. C'était un studio minuscule avec un couloir immense. Un couloir qui faisait, dans ma mémoire, il faisait 50 mètres de long. Mais non, il devait faire 10 mètres. Mais c'est, et le studio, là, et où nous vivions tous, et puis la rue, immédiatement. C'est là qu'il y avait le marché, qui est toujours là, d'ailleurs, sur le boulevard avec sa grande plateforme là c'est les seuls souvenirs que j'ai de ce moment-là. J'ai pourtant des souvenirs de Tunis. J'ai des souvenirs du Boukornine, de la montagne à deux cornes. Ça s'est resté imprimé dans ma mémoire. Et quand je suis allé souvent à Naples, j'aime beaucoup Naples, et je me demandais pourquoi le paysage me parlait. Et finalement, j'ai compris que le Vésuve et le Boukornine, ça peut se surimposer. Enfin, c'est tout ça et reste à l'état de spectral dans le souvenir.
C'est un peu le thème du livre, hein, la mémoire spectrale de votre livre, L'invention du diable.
L'invention du diable.
Il mélange ça devient flou le passé pour lui. Il est trop long. On va y venir en détail. Avez-vous fait des études, Hubert Haddad, lesquelles ou pas du tout?
J'aimerais dire pas du tout.
Mais alors pas du tout, c'est une possible réponse.
Ce serait pas vrai, tout à fait, parce que j'ai quand même été au cours préparatoire. J'ai pas connu la crèche. Il n'y avait pas de crèche à l'époque. J'ai connu le cours préparatoire. Je me souviens des élèves, enfin c'est pas des élèves, des bambins. Le seul souvenir que j'ai à Belleville, rue des Cendriers, où l'école préparatoire est toujours là. Je me souviens des petits qui avaient. Il y avait des casiers pour chacun. Moi, j'étais un étranger. Je ne comprenais pas exactement ce que les enfants trafiquaient. J'étais vraiment un peu naïf, quoi. Et puis, je les voyais, ils disaient, on va empoisonner la maîtresse. Alors, ils amenaient chacun des poisons, ils faisaient dans des petits flacons qu'ils avaient amenés en plastique. Ils broyaient des substances. Et l'objectif était de faire un bonbon radical qui nous débarrasserait de la maîtresse.
À 6 ans ?
Non, même pas. On avait 5 ans, 4 ans. C'était pas en préparatoire, c'était... Comment on appelle la classe avant ? Il y a la crèche, après la crèche. Non, après la crèche, il y a la maternelle.
C'était la maternelle. Bah oui, c'est CP, c'est maternelle.
Non, c'est la première année de l'université.
Ah oui.
Où nous sommes souvent restés. Non, c'est la maternelle. La maternelle, il y a un beau film, la maternelle. Non, c'est en maternelle, c'est-à-dire les bambins qui on les apprend pas, on leur apprend à peine à lire. À l'époque, on leur apprenait pas du tout à lire.
Vous n'avez pas été jusqu'à 16 ans à l'école ?
Si, mais j'ai été renvoyé pour... je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que c'était terrible après-guerre, dans l'après-guerre. C'était assez terrible parce que c'était militaire. C'était un peu la police de Vichy. Il y en a eu des bons, Mais moi, l'immigré, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés dans les années 50. Il n'y en avait pas beaucoup. On m'a fait subir quelques humiliations qui m'ont un peu mis en révolte contre l'institution dans sa globalité. C'est-à-dire que chaque fois que je vois quelqu'un qui a la prétention de m'humilier par sa corpulence ou par son savoir, maintenant j'ai mis du vin dans mon eau. Eh ben j'étais assez. Par exemple, je me souviens d'une Madame Moriot que j'ai retrouvée parce qu'elle a fait des études. Elle était institutrice lui au début, et puis elle est devenue professeure de français. Nous étions pauvres et j'avais des chaussures. J'étais pas responsable du fait que mes chaussures prennent l'eau. Et elle avait remarqué les marques comme ça qui amenaient à mon siège. Et elle me dit, élève Haddad, je ne sais plus comment elle interpellait. On interpellait les enfants par leur nom, pas par leur prénom. Montrez-nous vos pieds. Alors je devais montrer mes semelles, car il y avait des beaux trous comme dans les semelles de Charlie Chaplin. Et c'était la honte.
J'imagine. Ouais.
Et puis je la retrouve plus tard en sixième du collège, qui est là et qui, elle m'a pas demandé cette fois de me montrer mes semelles, mais de montrer ma mémoire, et la leçon, récitez-nous. J'ai dit j'en ai marre. Et là je lui ai dit en classe ça suffit, et je suis parti. Donc en sixième j'étais dehors. Et il avait, évidemment, je suis allé dans une autre école un peu plus tard, parce que la scolarité était déjà obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais ça a été des micro-traumatismes, c'est pas si grave, on en a vu d'autres. Dans mon itinéraire, quand je me suis retrouvé à l'université, parce que je me suis dit peut-être c'est intéressant, philo.
Bon, on choisit sa matière, c'est l'avantage de l'université.
Eh bien, oui, voilà. Mais je me suis retrouvé devant un homme aux cheveux taillés en brosse, assez colossal, comme ça, et qui nous désignait et qui nous disait donne-moi la définition, donnez-moi, cher ami, la définition du mot apodictique. Je la savais, mais ça lui suffisait pas. Mais c'est pas ça. Bon, moi je dis si c'est pas ça, je m'en vais. Et je suis devenu par le fait de l'agressivité de ma timidité aussi. J'étais très très emprunté. Je me sentais pas bien. J'ai fait mes études au café. C'est des études libres, université libre, au café avec des à Saint-Germain, au café La Palette. Il y avait là des tas de gens étonnants, des peintres yougoslaves ou hongrois. Il y avait Arthur Adamov qui était tétanique parce que le pium, là, il était vieux, il allait bientôt mourir. Mais il était gentil, il nous faisait l'amusions. Et puis j'ai rencontré d'autres ados qui fuyaient les Beaux-Arts, notamment, ou bien qui zonaient. Et c'est plutôt dans la zone que j'ai appris, que j'ai découvert, et surtout... La personne qui a été capitale, c'est mon frère aîné. Quoi.
On va en parler, vous pourrez développer tout à l'heure votre frère aîné.
Je ne peux pas développer, mais...
Mais en parlant du livre de poésie. Mais là, on va écourter, on va aller vite. Je propose un moment, là, parce qu'il est déjà 56. Oh non, on a le temps encore. Aviez-vous accès à une bibliothèque familiale ou municipale, et aviez-vous le droit de tout lire?
Il n'y avait pas de livre chez moi. Donc, il n'y avait pas de livre, ça c'est acquis. Mes parents ne lisaient pas, mes parents n'ont jamais lu. Ma mère s'y est mise petit à petit. mais ils étaient, mon père était illettré, ma mère était un peu était à l'ouest, elle était, tout ça l'avait tellement perturbée qu'elle avait abandonné le cap de la réalité, elle était ailleurs. Voilà. Donc les livres, je me suis inscrit à 12-13 ans à la bibliothèque municipale de Kremlin-Bicêtre, je me souviens. Tous les livres étaient dans une chape de goudron. Vous savez, là, cette reliure-là, noire, ça donnait pas tellement envie. Mais je me baladais je me baladais chez les adultes. Au début, on me reposait, on me disait, t'as rien à faire là, va chez les enfants. Mais à la fin, je prenais au hasard. Et puis ce qu'on devrait tous faire quand on va dans une librairie, c'est pas, bon, on en a parlé dans telle émission, on en a parlé dans Télérama ou dans Le Monde, je sais trop. Non, on va dans une librairie, on regarde, on feuillette. Et si on saisit quelque chose qui vous interpelle et qui est de l'ordre...
De toute façon, en deux pages, ça suffit pour ça voir s'il y a une affinité ou pas.
S'il y a quelqu'un ou s'il n'y a personne. C'est ce que je faisais.
Il y a aussi que si ça nous correspond.
Bien entendu.
Parce qu'il peut y avoir des goûts différents.
Évidemment,
qui sont très bien, quoi.
Évidemment, mais on peut évoluer aussi. On peut évoluer. Donc, il faut toujours ouvrir le livre et puis se dire quand on l'a terminé, si on le lit, quand on l'a terminé, bon, est-ce que ça m'a bouleversé ou bien est-ce que ça m'a troublé, est-ce que ça m'a inquiété, est-ce que ça m'a changé, est-ce que ça a eu est-ce que c'est important ou pas? Si vous dites oui, j'ai passé un bon moment, oui, c'était un bon film, oui, c'est pas mal, une bonne série, c'était non, c'est que vous avez perdu votre temps. Le rapport au livre, c'est un rapport d'esprit à esprit. Il faut que le livre vous saisisse et vous trouble et vous emporte et vous apporte quelque chose de neuf toujours. C'est du loisir.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Hubert Haddad, nous allons mettre un morceau de musique. Musique, Erwan. écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous recevons ce mois-ci Hubert Haddad. Hubert Haddad, vous avez choisi la musique, vous pouvez nous en dire deux mots?
Tarquinio Merula, c'est magnifique, c'est le baroque du XVIe siècle italien. Et c'est en correspondance un peu avec le diable, avec mon roman L'invention du diable.
Expliquez pourquoi ?
Oh, je n'explique pas, c'est l'époque, c'est mon personnage à travers cette époque-là.
C'est son époque de naissance.
Voilà, c'est l'époque où il a pu se manifester, s'exprimer, qu'il va traverser maintenant. Est-ce qu'on parle tout de suite de ce...
Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, Hubert. Je vais finir mes questions d'ordre général, mais ce que je vais faire, je vais vous demander, c'est d'y répondre brièvement, oui. En deux mots, on n'est pas là pour ça, mais ou développer si vous avez envie, mais répondre un peu plus brièvement que tout à l'heure.
Sûr.
Parce que j'en ai posé que quatre et j'en ai encore plein. Alors donc on y va tranquillement, mais on y va. Quand découvrant un livre, on découvre alors un monde. Quels livres, pendant votre adolescence ou très jeune adulte, vous ont particulièrement marqué, bouleversé, instruit, etc.
Un seul ?
Non, non.
Ah bon, je vais faire une petite...
Quel livre au pluriel ?
Voilà, alors, évidemment, la poésie. Évidemment, quand on a 15 ans, Baudelaire, Rimbaud, Artaud, et puis un peu plus tard le surréalisme dans son ampleur, Breton, et puis Dostoïevski, et Faulkner, et puis Merinck, Kafka bien sûr, qui dont le journal est toujours sur la table, à la table de chevet de nuit. Et puis plein d'autres. Et je suis en attente en permanence. Et j'ai heureusement quelques amis avec lesquels on échange et puis on découvre sans cesse. Et il se trouve que j'adore le travail de revue. Et ça permet de... Ça permet de lire beaucoup et puis de travailler sur ces lectures, de faire des dossiers.
On va parler tout à l'heure de la revue Apulée, oui. Dont vous vous occupez. Tôt, vous initiez le lancement, vous écrivez dedans et vous vous occupez de revues littéraires, chose que vous faites toujours aujourd'hui. Pourquoi ce désir ? Pourquoi des revues ? Pourquoi alors, à l'époque, ne vous lancez-vous pas dans un roman, par exemple ? Roman qui ne sortira qu'en 1974.
Parce que c'était la poésie, parce que la poésie pour nous c'était tout. Le roman, nous étions dans une certaine méfiance, à cause justement de ce que nous présentaient les librairies, les médias. Ça nous intéressait assez peu à cette époque, et aussi parce que nous en étions. C'est un investissement, c'est un énorme, c'est une sorte de conversion et ensuite un travail d'un autre ordre.
Mais
d'écrire un roman.
Dostoïevski, par exemple.
Dostoïevski, je veux dire, c'est un peu après les poètes, tous les poètes, sa jeune Perse. Je repérais quand même. Même à 15-16 ans, quand on est saisi par la passion, la beauté, eh bien on se rend compte quand il y a de l'emphase, quand c'est pas exactement ce qu'on désire vraiment. J'ai lu le précis des compositions à 16 ou 17 ans. J'ai trouvé ce livre parce qu'il est paru directement dans la collection Idées.
Ah ouais, tu rends directement en Idées ?
En Idées, oui. Et j'ai trouvé ça étonnant. J'ai trouvé ça très fort. Mais j'avais une réticence que je ne pouvais pas m'expliquer. Parce qu'il y a une complaisance dans le nihilisme qui est simplement manière de... C'est la posture du nihiliste est la plus belle, la plus... disons, la plus aisée posture pour faire du beau style. Et ce beau style était en contradiction avec l'appel au rien, au néant, au suicide. Et donc ça me gênait, ça, déjà. Ensuite, j'ai compris comment le fonctionnement. Il n'empêche que c'est une magnifique rhétorique, mais quand même, il y a un aspect rhétorique. Au demeurant, il faut atteindre cette rhétorique. C'est le fait d'un grand écrivain. De même, Chateaubriand, ça résonne, c'est beau, c'est magnifique. Bossuet, allez lire les sermons sur la mort. On est dans une cathédrale et tout résonne. Et puis on tremble, on a les chines hérissées. C'est le baroque, ça.
Ce premier roman, Un rêve de glace, paru en 1974 chez Albin Michel, avez-vous eu du mal à en trouver l'éditeur ? Saviez-vous alors que vous ne feriez qu'écrire toute votre vie et que cela sera votre principal gagne-pain ?
Je savais quand j'avais... Je ne pensais pas en termes de gagne-pain. Quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans...
Mais qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous auriez pas vendu à 10 exemplaires chaque tout ce
non,
que
non,
vous
non,
avez
non,
fait ?
Non, on ne pense pas du tout dans ma situation de famille d'exilés, mon père forain, il était tailleur de pierre en Tunisie, forain, je l'ai, et moi j'étais un petit... J'ai passé une grande partie de mon enfance, dès l'âge de 10 ans, à travailler... à être un peu l'esclave, et avec des échappées, évidemment. C'est pour ça que j'étais un enfant de la rue. Parce que dès que je pouvais sortir, on ne me retrouvait plus. Quand tout d'un coup la poésie surgit en vous, vous découvrez qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette langue qui est la seule auquel vous avez droit, parce que mes parents parlaient arabe entre eux, mais à aucun moment ils nous ont convoqués dans leur culture et leur langue. Sachant que quand je dis illettré, ça ne signifie pas qu'il n'avait pas de culture. Parce que la culture orale est une culture aussi puissante que la même. Pour les anciens, c'était presque une déficience que l'écriture. Parce que l'écriture, dès qu'on pouvait mettre par écrit quelque chose... On abandonnait le travail de la mémoire, de l'oralité, du chant, des légendes, de la transmission. Je vais être bref, si tu me regardes avec désespoir. Je ne sais plus où j'en étais.
Pose-moi la transmission.
Question. La transmission. Bon, ça s'est passé comme ça, voilà.
Pourquoi écrivez-vous et publiez-vous Hubert Haddad ?
Parce que, je te l'ai dit...
Et publier, alors ça, c'est pas la nécessité.
Non, mais c'était la passion. Quand tout d'un coup, je me trouve et puis je vois que la seule espace qui peut me sauver, parce que c'était assez tragique, le contexte, qui peut me sauver, c'est la poésie. Eh bien, je m'engage complètement, et puis je pense pas à la pérennité. C'est-à-dire, si je meurs, parce que nous étions dans des phrases, que nous étions dans des... C'était... On aurait pu dire... plusieurs, d'ailleurs, après, quand j'ai... un peu plus tard, évidemment, on rencontre des gens comme vous... pas tous, mais un certain nombre. Et puis, qu'est-ce qu'on attend ? C'est la vérité, mais pas la vérité politique, pas la vérité sociétale, pas la vérité religieuse. La vérité, qu'est-ce qu'on fiche là ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est projeté comme ça dans le plus grand mystère et qu'on serait obligé de se soumettre à ce mystère. Non, on voulait se confronter à ce mystère. Alors, la sauvegarde, d'une certaine manière, c'est ce qui... c'est l'écriture. C'est tout d'un coup, on dit, on va faire une revue. On va faire une revue. On a commencé par des espèces de fanzines, jusqu'à ce qu'on arrive au point d'être. Une vraie revue, on était fauchés. Pire que les blés, Et on a fait une vraie belle revue, le point d'être, le point d'être. On est tous au point de l'être et sur le point d'être.
Vous êtes aussi historien d'art, avez-vous une formation dans ce domaine ?
Écoutez, je suis ce qu'on appelle, je ne suis pas l'autodidacte de la nausée de Jean-Paul Sartre, je n'ai pas lu la bibliothèque par ordre alphabétique, en commençant par Abélard, ou bien... à partir du moment où on est projeté dans tout ça, eh bien, il n'y a que ça qui vous parle. Donc, j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai écrit. Au mois d'octobre, j'ai rassemblé un certain nombre de textes sur la peinture. Certains assez conséquents, sur Klimt et Caravage, par exemple, c'est des textes assez conséquents. Et puis d'autres plus courts. Et il y a 100, 120 peintres, sculpteurs de l'art européen. L'art européen. Ça s'appelle L'art et son miroir.
Il est sorti, celui-là ?
Non, il va paraître en octobre prochain dans la collection Essai chez Ulma.
D'accord.
Et ça fera, il y a 1 200 000 signes. Ça fera 800, 900 pages, je ne sais pas. Et j'ai déjà publié sur l'art
c'est pour ça que je vous pose la question.
Sur la peinture, notamment aux éditions Azan, le Jardin des peintres, où c'est une sorte de traversée de l'histoire de l'art par le biais du jardin dans la peinture. Et aussi un Magritte qui n'a pas beaucoup eu... qui n'a pas eu une grande existence parce que l'ayant droit n'ayant pas signé le bon à tirer de l'imprimeur, a décidé de porter ça en justice et d'interdire. Le livre a été donc pilonné. On en trouve à pas cher, vous savez, sur Internet,
mais quand ils achèteront le...
La collection Les Chefs-d'œuvre.
Ils achèteront votre gros livre, L'Invention du Diable, il est repris dans la liste des livres, celui sur Magritte.
Ah, il est repris.
Oui, enfin, il y a le titre.
Ah,
titre. On peut l'avoir comme ça, l'éditeur.
C'est chez Azan, c'est la collection Les Chefs-d'œuvre.
Vous êtes aussi peintre à l'occasion...
Pas à l'occasion.
Non, vous êtes aussi peintre et à l'occasion illustrateur.
Ah, d'accord. Oui, à l'occasion illustrateur.
Pouvez-vous nous parler de cette facette peu connue de vous ?
Alors, je parle de Michel, de mon frère. Michel, qui dès l'adolescence, c'était la peinture, et qui, avec ses mains, réalisait plein de choses, et très belles, Et moi, je ne comprenais pas trop. Moi, c'était la poésie. Et on n'a pas eu... Dans notre famille, nous n'étions pas très communicatifs. Ça ne veut pas dire que nous n'étions pas essentiels les uns aux autres. Mais on ne nous a pas appris, comment dire, la communication. Donc, il n'y avait pas de communication, aucune. Par instant, lui était dans son monde, moi j'étais dans le mien, mes jeunes frères aussi. Était dans le leur, René, j'ai fait paraître chez Ulma le seul roman qu'il a écrit avant. Il est mort le jour des attentats à Paris. Et j'ai fait paraître les aventures d'Ibidem Serpicon, s'il y aura peut-être un film, chez Ulma. Et lui aussi écrivait, et puis le plus jeune frère aussi qui a écrit. Et dessine et peint. Et moi, j'ai toujours dessiné, toujours comme ça, mais c'était pour moi longtemps le territoire de Michel. Et Michel étant parti, ayant vécu des drames terribles, s'étant suicidé, j'ai pas pu continuer. J'ai abandonné. Parce que c'était lui, la peinture.
J'ai la chance d'avoir un de vos dessins chez moi au mur.
Ah oui, de Michel ?
Non, de vous, que vous m'aviez donné.
D'accord. Et J'ai
le livre, par contre, de Michel.
Le livre, ce que j'ai fait sur Michel.
Le grand livre,
oui,
voilà.
J'avais fait ça après sa mort. C'est,
voilà, ça, je
c'est
l'ai
une sorte
ça.
De... On appelle ça en hébreu les mémoires bou. J'ai fait un livre sur lui, mais j'avais que ça à faire. Il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé? Il était parti en Israël, il est passé par les kibbutz, il est allé à Jérusalem, il a peint, il était dans des ateliers, il était seul, il s'est séparé avec son épouse, il faisait des expos, il a eu le prix Colinder, un grand prix qui se donne là-bas. Il militait pour la paix, il voulait la réconciliation, considéré comme déserteur parce qu'il voulait pas porter les armes, il mettait le canon en bas.
Il avait bien raison.
Et déserteur en Israël, déserteur en France. C'est-à-dire qu'on l'a rattrapé et en Israël parce qu'il est parti à 19 ans. Et on l'a rattrapé là. Et à la fin, on l'a mis en psychiatrie. Il est sorti de psychiatrie, il y retournait. Il était perdu. Et à la fin de sa vie, il est allé dans une cabane du côté de Jérusalem-Est, au milieu des oliviers, une cabane de jardinier, une cabane. Et là, il a mis son chevalet, et il a dépeint, là, quelque temps, seul. Et un beau jour, il est rentré. Il avait plus d'argent, plus rien, mais il avait quand même de quoi rentrer à Paris. Il est allé à Ménilmontant, où nous étions débarqués de Tunisie, et il a acheté au bazar de l'hôtel de ville, au sous-sol, il y avait un rayon pour la chasse, et c'était en vente libre.
Oh bah toujours, hein.
Je crois pas que les fusils...
Bah si, soient... les fusils de chasse, il faut le permis, mais ils sont en vente libre.
Non, sans permis.
Je crois qu'il faut le permis, okay. Je connais rien là-dedans,
Il a pris le plus gros calibre pour tuer les sangliers.
Voilà, c'est ça, ouais.
Et il s'est mis dans le... Ça, c'est assez horrible, dans le HLM où vivait mon frère René. Et seul, il a mis dans une enveloppe tout l'argent qu'il avait, qu'il a tiré de la banque pour se faire pardonner. Mais tu parles qu'il se faire pardonner de ça, on ne peut pas. Bien sûr qu'il est pardonné, mais c'est trop horrible. Et il s'est arraché la tête, et avec un mot qu'il a mis sur la porte, « Ne rentre pas, appelle les pompiers. » Il est rentré, mon frère René.
Avant de parler de l'invention du diable, sorti chez Zulma, et de Portique, de l'instant sorti aux éditions Projectile, nous allons mettre un morceau de musique. Et avant, on va parler juste entre-temps, je ne l'ai pas reçu, alors c'est vous qui allez en parler, on va parler de votre revue Apulée.
Apulée, oui. تجري
Écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Nous recevons ce mois-ci Hubert Haddad. Vous avez encore choisi la musique, Hubert ?
Oui, Rachid Tara, qui est disparu, il est mort il y a 3 ans, 3 ans je crois. Et ça c'est la musique Chaoui, et c'est un musicien, un chanteur exceptionnel et qui surtout était dans un esprit universaliste. Il militait beaucoup pour la paix, pour la liberté.
Je vous propose maintenant de nous présenter la revue Apulée dont vous avez occupé aux éditions Zulma. Pourquoi cette revue? De quoi parle-t-elle? Avec qui? De quoi traite-t-elle? Où la trouve-t-on? Enfin, nous voulons tout savoir. Oui. Et puis, juste après, vous nous lirez 3 poèmes.
Oui, la revue Apulée, c'était un rêve. J'ai fait des revues, je vous ai parlé du point d'aide, j'en ai fait d'autres, mais plus strictement sur le fantastique, avec une revue, une autre plus... Là, c'est une revue internationale Les écrivains, les artistes, ils sont un peu atomisés, isolés. Et pourtant, leur parole est un peu, d'une certaine manière, pas confisquée, mais pas loin par la demande économique, commerciale. Un écrivain, s'il veut publier, il faut qu'il donne des romans. Puis maintenant, les romans doivent être un peu formatés. Un roman qui sort de ce formatage qui est très moraliste et aussi qui se cache derrière une morale publique et puis finalement c'est un miroir narcissique pour le lecteur et ça encombre les librairies et les poètes qui sont complètement isolés, infantilisés par les éditeurs, ils n'ont plus de vraie réalité éditoriale, alors qu'il y a 1000 petits éditeurs. Mais la réalité qui en France et la réalité dans les autres pays n'interdisent pas aux artistes de se reconnaître à travers les frontières, par-delà les frontières, par-delà le temps. Et pour cela, nous avons le recours de la revue. Nous avons le recours de la revue. Dans la revue, nous pouvons réinventer. Nous pouvons reprendre notre liberté. Et on reprend notre liberté. Pourquoi ? Pour la liberté. Parce que c'est un artiste, c'est la seule chose. C'est l'unique combat. C'est le combat pour la liberté. Et c'est pour ça que d'où qu'on vienne, où qu'on soit, de quel pays qu'on soit, on se reconnaît tout de suite. Il n'y a pas besoin de discours. Nous sommes dans le même lieu de quête de la liberté par la poésie, par les langues, par l'entrecroisement des langues, par la traduction. Et c'est ce qu'on a voulu faire Avec Apulée, c'est le vrai combat d'Apulée. Pourquoi Apulée ? Parce qu'on part de l'autre côté de la Méditerranée. C'était nécessaire de se décentrer, d'être nomade. C'est pas Paris, c'est pas Saint-Germain. On part de l'autre côté de la Méditerranée. Beaucoup d'entre nous viennent d'Afrique et du Maghreb. Et c'est de l'autre côté de la Méditerranée qu'on ne s'enferme pas, mais qu'on interroge et qu'on invite le monde. C'est pour ça que c'est une vraie revue internationale, et chaque numéro, c'est 400 grandes pages, entre 400 et 500 grandes pages, avec 100 contributeurs, et il y a là des nouveaux venus, de jeunes écrivains, de jeunes poètes. Il y a, si je vous lis le dernier numéro d'Apulée, ce poète, cet écrivain berbère du deuxième siècle après Christ, qui a écrit un roman qui Les Métamorphoses ou L'Âge d'or, qui est le premier vrai roman, c'est-à-dire le premier vrai roman, c'est un roman d'imaginaire critique. Nous ne sommes plus dans le merveilleux, nous sommes dans l'imaginaire, mais l'imaginaire critique qui interroge le monde, qui questionne. Ça nous permettait de nous, avec ce titre que nous a soufflé à l'oreille Abdelatif Labi, d'être disponible pour toutes les expériences esthétiques, artistiques et poétiques. Alors dans ce septième numéro, le huitième est prêt et il paraîtra au mois d'avril. Le huitième, c'est une provocation, c'est thématique. Mais, au fond, il y a comme une succession dialectique autour des droits humains et de la liberté. C'est l'essentiel. Mais ça passe par la poésie, ça passe par le roman, la nouvelle, la philosophie, les problèmes de l'enquête... Et c'est très diversifié, et pourtant il y a vraiment une unité dans une unité sans cesse renouvelée, avec le septième, celui qui est en librairie actuellement. Il s'agit des libertés, la liberté au singulier, liberté au pluriel, où on trouve des entretiens avec Gérard Chalian et Alain Deneau, un magnifique dossier sur les poètes de la résistance kurde, et qu'a initié Delphine Durand, qui est elle-même poète, et un poète génial. Delphine Durand, on en parle, elle est peu connue encore, mais je crois que vous en entendrez parler. Alors, il y a des inédits d'Édouard Glissant, de Madeleine Riffaud, la résistante, la grande résistante, qui n'a pas voulu les honneurs, qui sait toujours qu'il est une amie. Et là, il y a de très beaux poèmes écrits avec son amant vietnamien, aussi de Kata Biassine, et des inédits de Noël Deveau. Qui se souvient de Noël Deveau ? Il n'y a rien d'exclusif dans Apulée. Noël Deveau, c'est un grand écrivain de langue française et du terroir. Qui a écrit 10 ou 12 recueils de contes et de nouvelles chez Gallimard, qui sont d'une écriture... voilà. Alors l'écriture, le style n'est pas un tic bourgeois. Non, pas du tout. L'écriture, c'est à la vie, à la mort. L'écriture, c'est essentiel. Le style. Nous ne prononçons pas ce mot qui est banni, honni. Mais sans écriture, on meurt. Retirer le style à Antonin Artaud. L'écriture
à Baudelaire dans son genre.
À Baudelaire, mais il n'y a plus rien.
Il reste des rimes,
et
quoi.
Et là, on nous fait l'exaltation. Les journalistes, pas toi, mais les journalistes en général, dans le littéraire, dans les grands supports, nous font l'exaltation de, même plus de l'écriture blanche. L'écriture blanche gédienne, ça s'est passé, mais maintenant c'est pas d'écriture. Non, non, l'écriture c'est dépassé, l'écriture plate, voilà ce qu'il faut. Alors si vous pouvez vous contenter de l'écriture plate, alors on oublie la littérature.
On regarde ce qui est en tête des ventes.
on nous oublie, nous on n'a plus qu'à aller dans moi je vais retourner sur les fortifs, camper avec les clochards. Et donc Noël Devaux, c'était un personnage tout à fait bon, Gracq et André-Pierre de Mandiargue avaient beaucoup d'estime pour lui. Mais il y a aussi Salahattin de Mirtas, une lettre ouverte à votre honneur. Votre honneur, c'est le président turc. Et Salahattin de Mirtas est en prison depuis des années et des années. Il a eu l'audace en tant que kurde de Turquie de se présenter aux élections. On l'a mis en prison, mais dans la prison, il résiste. Dans la prison, il résiste il collabore à notre revue. Il n'est pas le seul prisonnier à collaborer à notre revue. On trouve des biais pour avoir les textes. Avec Demirtas, c'est bon, on a trouvé le biais pour obtenir un texte où il nous dit, et il nous dit pas son histoire à lui, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il s'adresse au monde et il nous dit que le combat qu'on doit mener, c'est un combat universel,
Alors vous avez trois poèmes à nous lire, je crois, Hubert.
Ah, je voudrais, oui, peut-être. Bon,
on va passer au truc.
La revue Apulée, nous sommes donc bientôt au 8e. Il faudrait toute une émission pour en parler.
Bah oui, c'est ça, quoi.
Et je viendrai avec des poètes de Mogadiscio et de d'un peu partout.
Moi, une fois, je vous avais reçu pour, et tellement elle est importante, j'ai même pas pu la lire entière. Il faut une année pour la lire.
Il faut du temps, mais c'est.
Non, c'est pas un reproche, hein, mais bon, elle est énorme, quoi.
Je vous lis trois petits poèmes en tête.
Présenter le poète.
Abdel Wahab Youssef. C'est traduit de l'arabe. C'est un Soudanais. Par Ahmed Gamal et Léa Bouatouas. C'est à la fois souvent la poésie et dans les langues, avec la langue originale. Et la traduction en vis-à-vis ou l'amour de la liberté. Rien ne peut me tuer, ni l'amour pour une femme, ni mon amour pour la poésie ou la littérature, ni même ma passion pour la dissection de l'histoire. Ce qui peut me tuer, honnêtement, est mon amour pour la vie. Ce qui peut me tuer seulement est mon amour pour la fuite hors du temps, la fuite hors de toute chose, ce qui me tuera. Et l'amour de la liberté. Mourir dans les profondeurs de la mer. Tu mourras dans les profondeurs de la mer. Les vagues fracassant ta tête et l'eau balançant ton corps comme un bateau crevé. Ou alors tu mourras sur une terre délaissée, le froid rongeant ton corps qui fuira douloureusement vers toi. Tu mourras seul, embrassant ton ombre délavée. Demain ne sera plus que le spectre de tes rêves. Personne n'en saura rien. Cela ne fera aucune différence. Ce n'est pas une mauvaise chose que de mourir jeune comme nous le sommes, sans avoir dépassé la trentaine. Non, ce n'est pas une mauvaise chose que de partir tôt. Mais ce qui est regrettable est de mourir seul. Mourir seul, sans une femme qui dise « Viens, que j'ouvre ma poitrine pour toi et que tu laves ton âme de la misère qui l'a salie. » Une femme qui sourit et la nuit qui court entre les doigts du temps. Abdel Wahab Youssef a disparu en mer Méditerranée le 17 août 2020. Et ces trois poèmes datent de la même année. C'est tout ce que... Il y a un recueil, il y a ici et là dans des revues, mais il nous a laissé, avant de disparaître, en préscience de sa disparition, ces poèmes qu'on a trouvés sur lui.
Merci Hubert Haddad. Nous allons parler de L'invention du diable, sorti aux éditions Zulma en 2022. Pour commencer, je vais lire la quatrième de couverture pour que les auditeurs aient une idée du livre. Papillon de Lasfrir.
De Lasfrize.
Lasfrize s'est retiré dans cette.
Marc Papillon de Lasfrize, c'est son nom.
Oh oui, là, enfin, sa quatrième, c'est marqué.
Oui.
Je le dis après, Marc.
D'accord.
Marqué Papillon de Lasfrize s'est retiré dans sa tour d'ivoire angevine. Après une existence dédiée à l'amour et à la guerre, le voilà tout entier habité par le démon de l'écriture. Au soir de sa vie, il pactise avec le diable. Tant que ses poésies n'ont pas accédé à la postérité, il ne connaîtra pas le repos éternel. L'immortalité sera sa malédiction. Emporté dans une aventure aux multiples péripéties, Papillon traverse les époques. Se fourvoie chez les précieuses ridicules, est embastillé avec le marquis de Sade, croise Napoléon au pied de sa propre statue, survit à la commune et échappe de peu à la Gestapo. Voyant disparaître l'une après l'autre ses compagnes, comme autant de feux follets, il se découvre amoureux d'une seule et même femme, idéale, avec l'espoir de toujours la retrouver. Pourquoi ce titre ?
L'invention du diable. Les cathares pensent que le monde, c'est l'invention du diable. Les gnostiques, le monde, c'est le diable. C'est une illusion. C'est une perdition. Nous sommes dupes. Nous sommes des dupes de l'absolu. Mais je ne suis pas cathare. L'invention du diable, c'est l'immortalité qu'on nous promet. C'est l'immortalité. C'est ça l'invention du diable. C'est ça la grande malédiction. Et c'est ce que va découvrir Papillon, qui est né en 1555, près d'Amboise, de l'autre côté du fleuve. Et chez des aristocrates, des nobliaux, disons.
Oui, pas très très riche.
Non, pas très très riche.
Quand même, voilà, avec pas très, très tout riche. Ce qu'il faut, quoi.
Et le père va mourir, et donc la mère, la veuve, elle ne sait pas quoi faire. Bon, il n'y a plus beaucoup de moyens, donc il va devenir... comme il a quand même quelques lettres de noblesse, il va devenir écuyer des affreux Guises, du duc de Lorraine, pas du Balafré, mais du duc de Lorraine. Il va devenir écuyer. On va le former à la guerre à 12 ans. Hein. On va le former à la guerre. Il va devenir un soldat. Un soldat qui va connaître toutes les guerres, là. Il avait 18 ans à l'époque, à la Saint-Barthélemy, parce qu'il était évidemment du côté du parti catholique. Il n'a pas participé à la Saint-Barthélemy, je crois qu'il ne l'aurait pas accepté. Il avait son compte à soi, une certaine moralité. Il était poète. Il écrivait des poèmes, mais il était soldat. Et au siège de La Rochelle, de Namur, il était là. Non, Namur, c'est plus tard. Il y sera, mais déjà mort. On lui met une armure qui pèse 100 kilos sur lui. On le met sur un cheval. Et ces gendarmes-là, ces chevaliers, obus. Et on l'envoie sur les lignes ennemies. On l'envoie briser, casser les lignes ennemies, comme un missile. Évidemment, il revient pas tout à fait entier, qui est un peu cassé, blessé. Et ça a duré des années et des années, c'était son gagne-pain. Hein. Mais il écrivait des poèmes, et c'est un poète qu'on retrouve parfois dans quelques anthologies, et qui a été bien oublié. Et à 38 ans, il prend sa retraite. C'est comme les grands sportifs, hein. Et il prend sa retraite, et il est tout cassé, plein de rhumatismes, de balafres, et il met ses œuvres complètes, ses poèmes, il les met au propre, et il fait une première et une deuxième édition. Et dans la deuxième édition, il y a ces vers. Démon, témoin de mon jurement, au risque d'en perdre âme et sang, une plume à ma veine trempée, scelle un contrat d'immortalité. Tant que gloire enfin me soit donnée, jamais irai-je en l'ombreux tombeau. Et alors je me suis dit, c'est très curieux, c'est une sorte de pacte faustien là. Jamais irai-je en l'ombreux tombeau. Il a fait donc un pacte. J'ai cherché sa tombe dans Anjou, et il n'y a pas de tombe. Dans les registres paroissiaux, pas trace. Il a disparu, volatilisé. Alors je me suis dit, ben voilà. Eh bien, il n'est pas mort. Ou du moins, il est mort. Mais le pacte a été conclu et il va poursuivre son existence paradoxale à travers le temps, à travers les siècles, tant qu'il n'aura pas. Et il n'est pas reconnu, il va poursuivre l'aventure, et on le voit, une sorte de Don Quichotte temporel, on le voit à travers les siècles, après le passage du Styx, on le voit à toutes les époques, d'une certaine manière, bon, mais je ne peux pas en dire davantage, mais ce qui se passe...
Non, c'est à vous, je vous laisse à vous discuter. Oui, enfin, déjà, pas la fin. Oui. Ça, il ne faut surtout pas la fin.
Mais c'est quoi ce livre? C'est un roman un peu épique, comme ça, parce qu'il va avoir plein d'aventures, plein de rencontres, plusieurs amours, et le drame, c'est que quand il aime quelqu'un... Il tremble de... Lui est immortel, une immortalité relative, mais immortel, puisqu'il sera délivré quand, enfin, il sera ses poèmes seront reconnus. La gloire était avait un autre sens à cette époque. La gloire, c'était pas avoir passé apostrophe ou
ça n'est pas du tout... Avoir un grand yacht de 50 mètres.
C'est pas ça, c'était quelque chose de l'ordre d'un mot que j'emploie, qui était de l'ordre spirituel, comme de la fruition. Il y a des mots comme ça que vous allez trouver, mais ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas trop. Et alors, il va faire des rencontres, il va être amoureux, il va se retrouver, devoir combattre de nouveau, il va se retrouver dans les galères. Dans les galères, parce que, évidemment, c'est un pilier de taverne, il se bat en duel à tout moment.
Il a toujours presque, sauf à la fin, il a presque toujours son épée et son cheval.
Il a son épée et son cheval, jusque sur le pont Neuf, au XXe siècle. Même là, je ne veux pas m'avancer jusque-là. Mais à partir de ce personnage qui est... Il y a beaucoup d'ironie dans ce livre, beaucoup d'humour. À partir de ce personnage, je fais un peu... Sans que ce soit didactique, à aucun moment, une histoire de la poésie, comme elle évolue, une histoire de la langue surtout, parce que la langue au début, eh bien, c'est la langue du XVIe siècle. C'est la langue,
du vieux français, comme on dit.
Du vieux français, on est sorti du français médiéval, hein. C'est la langue de Montaigne et de Rabelais, et de Ronsard, et du Bellay. Mais c'est une langue fleurie. Et puis il va se retrouver au XVIIe siècle, il ne va plus rien comprendre parce que lui qui poursuit sa présence et qui espère qu'on va enfin entendre ses vers, eh bien on ne les entend pas parce que on ne le comprend plus, on ne comprend plus ce qu'il raconte, et lui-même il ne comprend pas ce qu'il entend, parce que quand il est chez les précieux, et qu'il entende des
précieuses ridicules.
Les précieuses ridicules, les précieux. C'est pas les précieuses ridicules, c'est les précieux. C'est les, on dit des précieuses ridicules pour, un peu pour dénigrer, pour attribuer aux femmes. C'est vrai que les femmes devant les brutes c'est plutôt les femmes qui ont porté dans les salons la langue française. Hein. Mais ils ne comprenaient pas, voiture et moi, les commodités de la conversation. Qu'est-ce qu'on raconte là? C'est quoi les, apportez-moi une chaise. Ça veut dire ça. Il y a plein de jeux comme ça dans à travers les siècles où lui ne peut pas évoluer parce qu'il est immortel. Et quand on est immortel, on ne peut plus créer. La création, c'est les mortels qui ont cette grâce. Parce que quand on est mortel, on est dans le langage comme le langage qui est advenu à l'humain, justement parce qu'il, étant mortel, il convoque l'absence. Parce que la mort est dans l'invention. Se sachant disparaissant, on ne se sait pas disparaissant, on l'est. Donc, ontologiquement, le créateur est mortel. L'immortel ne peut rien inventer. Mais je termine là. Je veux dire qu'évidemment, il y a une critique du transhumanisme, une critique assez acerbe du transhumanisme qui est en soi une absurdité et puis surtout qui est fondée sur une absence totale d'intuition existentielle de ce que peut être la présence dans l'urgence de l'instant, comme ça. Et c'est aussi une histoire de la poésie, d'une certaine manière, puisqu'il va quand même se trouver dans des rencontrer un certain nombre de personnages, d'écrivains. C'est un peu un roman total, mais bon, c'est pas Le Petit Prince. C'est-à-dire que il faut un effort.
La première question après avoir lu ce
livre. Le Petit Prince, un très joli petit livre, mais un roman colonial. Un conte colonial, n'est-ce pas?
La première question après avoir lu ce livre, ce serait de vous demander où vous en avez trouvé l'idée. Forcément, j'ai pensé à Faust et à son pacte, ainsi qu'à un livre peu connu de Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels.
Oh, il y en a d'autres, il y a Orlando de...
Vous l'avez lu, Tous les hommes sont mortels,
oui,
de Beauvoir?
Mais il y a Marlowe, surtout, il y a... mais Faust, c'est le mythe de Faust, est entré dans l'espace... De la culture occidentale au XVIe siècle. Au XVIe siècle, le mythe de Faust qui remonte à bien plus loin, déjà, on trouvait des allusions chez Rudebeuf, c'est un conte plutôt allemand qui s'est promené. Qui s'est promené, qui est devenu un mythe universel et qui toujours continue de se promener et de temps en temps on revient à cette... Mais il y a des variations. Il y a des variations. Chamisot, c'est pas le même que Goethe, c'est pas le même que...
C'est comme Don Juan, il y en a plusieurs Don Juan.
Bien entendu, c'est des mythes universels et donc chacun l'adapte à son imaginaire, à des fins qui sont romanesques. Non, ça c'est rien. Ça c'est pour...
D'accord.
Portique de l'instant.
Ben on peut passer à Portique de l'instant,
oh bah
parce
oui.
que, vous voyez...
Voyons l'heure.
Alors allez-y, je vous laisse table blanche.
Ben écoutez, c'est un recueil de poèmes. Qui est paru chez un éditeur qui a son siège dans la presqu'île de... pas à Madagascar, mais comment on appelle
Mayotte.
Mayotte, voilà. Et ce sont des... Tout d'un coup, on me dit, bon ben, est-ce que tu as des poèmes? Parce que je demande, jamais je ne donne un manuscrit. Ça participe de ce que j'ai vécu, sans doute enfant et adolescent. Je ne vais pas donner un manuscrit. Je suis pas demandeur. Je n'ai jamais été demandeur. Donc, j'ai des poèmes, j'écris, puis de temps en temps, tout d'un coup, un éditeur improbable, c'est-à-dire de Mayotte, qui a évidemment qui est distribué en France, et m'a proposé, j'avais ce recueil qui était fini, qui était terminé, Portique de l'instant.
Et une question que j'avais, tous les textes, ils sont pour ce recueil ou ils y viennent de sources éparses?
Non, il y en a un qui avait été publié dans une anthologie au Castor Astral. Et sinon, les autres sont inédits. Il y a des dessins de mon frère Michel.
Ouais, ben c'est ça,
voilà,
surtout.
Il y a des dessins de mon frère Michel. Et que ça prend... Tout d'un coup, ça prend un vrai... Pour moi, ça prend un vrai éclairage, parce que je me rends compte qu'il est toujours présent. Et que les poèmes lui sont... presque toujours dédié, un qui passait, frère qui n'est plus, emportant sans retour l'âme inexpliquée, frère qui n'est plus, qui n'est pas revenu, est-il vrai que la mort est sans pourquoi? Je sais bien que nous ne nous reverrons pas. M'as-tu pardonné avant la pluie, avant le vent et l'oubli? Un qui passait plus seul qu'un Christ manqué, offrant aux ombres son cœur d'enfant mort-né. Je n'ai pas supporté jusqu'à toi les fanaux bleus, ni les chandeliers de la haute présence, non plus le grand soleil un matin de septembre, fermer les volets noirs sur les draperies blanches, la flamme d'un sourire parfois renaît d'un rien, un qui n'est plus, toi qui m'arraches l'âme est-elle autre que cet arrachement, méchante plaie qu'il faut tant supplicier pour y voir Dieu en place du néant, personne n'a su t'aimer qui tant aimait. Un qui n'est plus avant que ne soit lui, pour ne plus t'offenser si loin retient ma main, la mort ira se fondre à la couleur des jours, et nous nous reverrons dans l'éternel matin.
Je précise que je pense que vous ne croyez pas en Dieu malgré ce poème.
Dieu, c'est pas une question.
Non, parce que l'homme a inventé les dieux, moi je dis toujours.
L'homme a inventé les mythes.
Oui, bah oui, c'est ça.
L'homme a inventé les mythes, mais les mythes, c'est magnifique.
Bah oui, oui, oui. Bah ça fait partie de notre culture, quoi. Du monde, quoi.
Notre finitude ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... Eh bien, ne s'est pas nommée. Alors, il y a des mots comme ça, des mots qui ne veulent rien dire, mais qui sont le tremblement de notre non-savoir. Ce sont le mot Dieu, le mot âme, le mot... Parfois, on fait de Dieu une institution, et là, ça devient grave. Mais... qu'un berger en haut des montagnes d'Anatolie, eh bien, croit en Dieu. Mais c'est quoi pour lui Dieu? C'est ses moutons, c'est le ciel, c'est les... Ça ne nous... Je veux dire, il y a... Nous sommes dans l'inexplicable. Nous sommes dans le grand mystère. Dès qu'on s'empare de l'inexplicable et qu'on appelle ça l'irrationnel et qu'on flatte cette opportunité avec des appareillages grandioses et ostentatoires et surtout terrorisants, c'est la part... La part maudite de notre liberté. Il y a un numéro d'Apulé, c'est Imaginaire et pouvoir. C'est Imaginaire et pouvoir, et là on parle de ça, on parle vraiment de ça. Le pouvoir s'empare de l'imaginaire pour en faire une force d'aliénation.
Ce sera le mot de la fin, Hubert Haddad. On n'a pas parlé de tout, vous reviendrez, parce que Pour l'invention du DAB, j'ai posé 3 questions et je devais en avoir une vingtaine.
D'accord.
Vous voyez, on n'a pas parlé de tout. Et pour la poésie, on n'a rien parlé, je vous ai laissé parler. Je vous remercie d'être venu, Berhadat, parler de l'invention du DAB, du diable sorti chez Zulma, et parler un tout petit peu de Portique au pluriel de l'instant, sorti chez Édition Projectile. Et nous allons mettre un morceau de musique. Musique, Erwan. Vous avez écouté l'émission Démo, une voix de Thierry, avec Erwan, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, à la librairie Publico, ou écrire à l'émission. Vous pouvez aussi écrire à l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Et vous pouvez aussi prendre une carte d'auditeur à la librairie Publico pour 20€. Je vous remercie pour nous aider à faire des émissions libres. À très bientôt les auditeurs. Pas au mois de mars, il n'y aura pas d'émission, mais au mois d'avril. Au revoir.
Au revoir. Thank you.